chers auditeurs, chères auditrices, de la vie générale. L'année 281 a marqué un tournant dans l'histoire hellénistique, avec la disparition des deux derniers diadoques d'Alexandre. En effet, après la mort de Démétrios Poliorcète, puis de Ptolémée Sautère, dans le courant de 283, c'est Lysimaque de Thrace qui, vers février 281, devait tomber sur le champ de bataille de Couroupédion, en Asie mineure, tandis que son vainqueur, Séleucos Nicator, sur le point de prendre possession de la Macédoine, était assassiné dans l'été de la même année par un usurpateur plus foudroyant que l'éclair, Ptolémée Keraunos, précisément, qu'il avait devancé sur le trône macédonien, laissé vacant depuis Couroupédion, précisément. Ces gigantesques turbulences ne pouvaient pas rester sans conséquence sur le destin des cités de la mer Égée. De fait, comme l'écrit Justin, un texte que vous avez aussi dans votre dossier, Justin, abréviateur des histoires philippiques du gallo-romain Trogue Pompée, une œuvre certes assez médiocre, mais néanmoins indispensable, la plupart des cités de Grèce propre, profitant, je cite, de l'occasion qui leur était donnée de recouvrer la liberté espérée, velut occasione data spem libertatis erectae, entrèrent alors en ébullition, députant des ambassadeurs les unes vers les autres, en vue de conclure des traités d'alliance, missis in vicem legatis per quos in societatis foedera alligarentur. Ce qui fondait plus particulièrement leur espoir, c'était la guerre que les rois de la nouvelle génération, si l'on peut dire, Ptolémée Keraunos, Antiochos et Antigone, se livraient entre eux, dissentibus inter se bello Ptolomeo Kerauno et Antiocho et Antigono regibus. Athènes n'est pas nommée, vous l'aurez noté, dans ce contexte, l'auteur latin ayant fixé son regard sur un théâtre d'opération seulement, le conflit autour de la plaine sacrée de Delphes, mené sans grand succès d'ailleurs contre les Étoliens par les Spartiates du roi Aréus, un roi qu'on retrouvera. Pourtant, on ne peut plus douter aujourd'hui que les Athéniens furent parmi les premiers à vouloir tirer parti de cette situation chaotique et qu'ils y réussirent largement par la diplomatie, sans doute plus que par les armes. Un témoignage nouveau d'une extraordinaire importance se trouve en effet dans une inscription inédite de la forteresse de Ramnonte, dont j'ai pu vous donner la semaine dernière la primeur grâce à l'amicale bienveillance de son inventeur, M. Vassili Petrakos. Car ce décret honorant l'homme politique Aristeides de Lamptrae, un des héros du soulèvement d'Athènes en 287 contre la garnison du roi Démétrios au Mouséion, fait mention en sa première partie d'une députation conduite par ce personnage, à la fin de cet extrait, en Asie auprès d'Antigone, précisément, ambassade au terme de laquelle il obtint le retour de la place d'Éleusis sous la souveraineté d'Athènes. Pemphteis eisten Asian pros Antigonon ecomisato ten Eleusina. Une telle députation menée auprès d'un roi en train de faire campagne en Asie, dans des conditions qu'on peut imaginer difficiles, témoigne éloquemment, je crois, de la détermination avec laquelle les Athéniens cherchaient alors à reprendre possession d'une des rares forteresses qui leur échappait encore. Or, il n'est pas trop malaisé d'établir la date de l'événement, car c'est au lendemain déjà de l'assassinat de Séleucos en été 281 que le jeune roi Antigone Gonatas, fils de Démétrios, avait entrepris de se rétablir sur le trône de Macédoine. Mais face à Ptolémée Keraunos, qui disposait d'une flotte importante, héritée du roi Lysimaque, il subit, donc Antigone, sur mer, une défaite cuisante, dont Justin, ici encore, est à peu près seul à faire mention à la fin du chapitre cité il y a un instant. Cependant, écrit-il, la guerre se termina entre les rois, interrea interreges bellum finitur, Ptolémée ayant chassé Antigone et occupé tout le royaume de Macédoine. Nam Ptolomeus expulso Antigono cum regnum totius Macedoniae occupasset. Fait la paix avec Antiochos, pacem, cum Antiocho facit, sans parler de ce qu'il fit alors pour Pyrrhus, le fameux Pyrrhus, permettant au roi d'Épire de passer en Italie à l'appel des gens de Tarente contre Rome. Conjoncture donc d'une ampleur réellement exceptionnelle. Mais Antigone, vaincu en Macédoine, isolé, dépouillé peut-être déjà d'une partie de ses possessions grecques, joue un véritable coup de poker, pardonnez l'épouvantable anachronisme, sachant que le successeur de Séleucos est retenu dans les hautes satrapies, les provinces les plus orientales de l'Empire séleucide, en Bactriane. Il débarque, lui, Antigonos, sur un point inconnu de la côte de l'Asie mineure antérieure, avec l'espoir de se tailler un royaume sur les ruines de celui de Lysimaque, cela dès l'automne 281. Cette campagne a dû se prolonger pendant un peu plus d'une année, puisque c'est au moment seulement où il a pris la déconfiture et la mort de Ptolémée Keraunos dans le combat que celui-ci avait livré aux Celtes, on en reparlera, envahissant la Macédoine au tout début de l'année 279, qu'Antigone décida de renoncer sans doute à ses chimériques prétentions sur l'Asie, signa une paix qui s'avéra durable, elle, avec Antiochos, revenu entre-temps de ses lointaines provinces orientales. Antigone fit alors retour vers la Macédoine pour essayer de remettre la main sur le royaume paternel en complète déliquescence. C'est donc certainement avant cette date, dans la première moitié de l'année 280, que les ambassadeurs d'Athènes avaient réussi à rejoindre le roi quelque part en Asie mineure et à obtenir de lui son accord formel sur la rétrocession d'Éleusis, chose à quoi ils avaient dû sans doute s'engager en traitant directement avec le commandant des forces macédoniennes laissées par Antigone en Attique, à savoir le frourarque, le commandant de Munichi au Pirée. On se souvient en effet que c'est vers ce personnage, Antipatros, que le patriote Démocharès, qui était lui aussi et non sans raison crédité du même mérite d'avoir récupéré Éleusis, Éleusina Commissamenos, avait dû être précédemment envoyé, non pas, comme on l'admet le plus souvent, vers l'éphémère souverain de Macédoine au printemps 279, cet Antipatros surnommé Étésias, roi aussi passager qu'un coup de vent d'été. Le nouveau décret de Ramnonte paraît ainsi mettre définitivement hors de doute que les laborieuses négociations sur Éleusis, entamées sans doute dès après la mort de Démétrios en 283, prirent définitivement fin en 280. Dans l'intervalle, à l'automne 281 déjà, suite à la débâcle d'Antigone en Macédoine, les Athéniens avaient vraisemblablement pu remettre sur la forteresse. Ainsi s'expliquerait assez bien l'attaque surprise des Macédoniens contre Éleusis, une catadromée dont il est question chez Pausanias 1.26.1, Eis Éleusina, agression que le stratège Olympiodore parvint à repousser avec l'appui des habitants. Ce fut, au dire de Pausanias, vous aviez eu le dossier la semaine dernière, Pausanias s'inspirant sans doute de la phraséologie du décret perdu en l'honneur de cet Olympiodore, ce fut donc sa plus belle action, même compte tenu de sa conduite antérieure en 287, et exception faite de ce qu'il fit pour le Pirée et Munichi. C'est peut-être cet épisode qui nécessita, de toute urgence, une ambassade auprès d'Antigone en Asie, afin que fussent confirmés les arrangements précédemment conclus en Attique même. Dans le cas du Pirée, les choses n'ont pas dû être simples, non plus, bien évidemment. Mais il me paraît capital, sous peine de ne pouvoir comprendre le déroulement des opérations, de faire une claire distinction, trop souvent escamotée par les modernes, ou même vigoureusement contesté naguère par l'historien allemand Boris Dreyer, entre la forteresse de Munichi, d'une part, qui surveille, on l'a vu souvent, l'entrée du port fermée ici, cette forteresse, et le Pirée lui-même, l'ensemble de l'agglomération, l'agglomération marchande, la communauté politique, bref, le dème du Pirée, au démos, au peiraeon. Cette distinction est pourtant faite expressément dans le passage évoqué il y a un instant des Attica de Pausanias, 1.26.3, puisqu'il est dit de l'Impiodore qu'il recouvra le Pirée et Munichi, ton peiraeon, kai munichian, anasos samenos. Et quelle que doit être la signification très disputée, on l'a vu, du verbe anasozain, recouvrer bien plutôt que conserver. On retrouve d'ailleurs exactement la même opposition dans un document non attique, un décret de la cité de Thèbes relatif aux affaires athéniennes, à une aide apportée à Athènes, dans les premières lignes, où il est question de, d'un côté, de gens qui sont laissés au Pirée, kataleiftentes en to peiraei, et de l'autre, à une ligne d'intervalle, de la restitution de Munichi, apodomen, infinitif, kan munukian. Avec le même participe, si caractéristique de l'époque, komitamenoi, dans sa forme béotienne. De fait, cette inscription, bien malencontreusement amputée, vous le voyez à gauche comme à droite, doit dater des années 281-280. C'est ce que j'ai proposé de faire il y a quelques années, alors qu'on considérait à l'unanimité, comme un témoignage, du reste assez obscur, sur la libération d'Athènes en 229 seulement, sans que soit prise en compte le style de la gravure, qui est sensiblement plus ancien à beaucoup d'égards. Lorsque le nom Peiraios apparaît seul, il convient donc de se demander ce qu'il recouvre exactement. Or, dans le beau décret pris vers janvier 281, on avait déjà examiné, pour l'archonte sorti de charge, Eutios, la réunification escomptée pour très bientôt entre la ville et le Pirée, vous vous souvenez de la phrase importante, otan, kai o peraios, kai to astu ento auto genetai, concerne à coup sûr la communauté et le territoire des gens du Pirée, autrement dit le dème. Elle n'implique pas que la forteresse soit dans le même temps restituée aux Athéniens, même si bien entendu on l'espère à court terme. Rien ne le montre mieux que le cas des autres forteresses. La présence de garnisons macédoniennes à Éleusis, à Sunion, à Ramnonte après 287, pendant un temps plus ou moins long selon les cas, on l'ignore le plus souvent, n'a certainement pas empêché les habitants de ces divers dèmes d'être pleinement athéniens, eux, et de participer ainsi à la vie politique de la cité. Par sa position exceptionnelle, le statut du Pirée fut longtemps différent. Il constituait bel et bien une enclave sous domination étrangère, et c'est l'existence même de cette enclave qui dut empêcher, on l'a vu, la tenue des grandes Panathénées à l'été 282. Mais voilà que justement, les choses changèrent dans le courant de l'année archontale suivante. L'espoir d'une réunification prochaine, tel qu'il se manifeste donc dès le début de 281 dans ce décret pour l'archonte Eutios, se fondait nécessairement sur des perspectives solides du fait que des négociations au plus haut niveau avec le roi ou avec ses représentants en Grèce avaient alors été engagées. Il n'y a donc aucune raison de mettre en doute, sauf preuve formelle du contraire, que l'événement attendu eut effectivement lieu à plus ou moins brève échéance. Dans le débat qui a opposé là-dessus, depuis 1979, Philippe Gautier d'un côté, Christian Habicht de l'autre, avec leurs adeptes respectifs, plus ou moins nombreux, je prends résolument parti pour le premier, tout en reconnaissant pleinement la qualité de l'argumentation développée par le second. Et je voudrais alléguer, à l'appui de la thèse de la réunification dès l'été 281, un document dont l'intérêt historique me paraît avoir été singulièrement sous-estimé. Il s'agit d'un imposant catalogue, certes très fragmentaire, 30 fragments réunis là avec beaucoup de talent, qui recensait tous les membres du conseil de la boulet en une année donnée, soit 600 bouleutes, sans compter les hyperétailles attachés à chacune des 12 tribus. De telles listes sont connues dans les années 330, encore entre 307 et 301. Mais il n'y en a plus aucune dans tout le IIIe siècle, époque où l'on se contentait, en temps normal, d'honorer une seule tribu, c'est-à-dire les prytanes d'une seule tribu, 50 citoyens. De fait, dans la publication américaine de ces listes de bouleutes, Agora 15, numéro 72, cette liste est désignée comme « the great list ». Or, en dépit de sa mutilation, vous voyez, il manque tout le haut, trois choses capitales peuvent être établies avec sécurité. D'abord, la présence de représentants du dème du Pirée. Restitution, certes, mais restitution assurée après le pie, parce que le Pirée est le seul dème qui commence par cette lettre dans la tribu ici Hippotontis. D'autre part, le nombre des bouleutes à restituer, une dizaine, est tout à fait conforme aux chiffres des représentants du Pirée dans une liste plus complète que l'on a pour la fin du IVe siècle. Vous voyez ici, les gens du Pirée, ils sont là au nombre de 10, c'est leur quota de représentation à la boulet. Enfin, en l'absence de l'intitulé avec le nom de l'archonte, puisqu'il était dans le haut de ce grand monument, la date de cette inscription découle clairement, comme l'a établi l'éditeur John Trail dès 1969, de la présence en ligne, je ne sais plus, 115, 116, parmi les gens de Ptéléa, d'un certain Dioclès Iscuriou, que l'on retrouve comme président des Proèdres mettant aux voix, vous voyez, c'est le même Dioclès Iscuriou Ptéléasios, avec ses sumproédroi, sous l'archonta d'Ourias, en 281-0. Donc, il était bien clairement un bouleute. Or, ce décret, il est donc tout à fait clairement daté du début de cet archonta d'Ourias au mois de septembre. Au mois de septembre 281, c'est le décret qui concerne l'envoi des taxiarques au Basileia de Lébadée. Autrement dit, la grande liste bouleutique, 2 mètres sur 2 mètres, un énorme monument qui se dressait sur l'Agora, doit correspondre à l'année 281-0. Cela est admis partout, mais ce qu'on ne dit nulle part, c'est que cette pierre, ce catalogue, a été dressé en guise de mémorial exceptionnel, c'est encore une fois la seule liste de ce type pour le IIIe siècle, pour célébrer le fait que dès le début de cet archonta, été 281, le Conseil avait enfin pu siéger au complet pour la première fois depuis la séparation survenue en 287 entre la ville et son port, suite au soulèvement contre Démétrios. Et on se souvient que c'est justement sous ce même archonte Ourias, ou de moins sous son successeur immédiat, Gorgias, si ce Gorgias n'est pas en fait un fantôme qu'il faut corriger et qu'il ne ferait qu'un avec Ourias, que les Athéniens, sur proposition de Démocarès, ont dressé la fameuse statue de Démosthène, dont on a ici une bonne copie de Copenhague. Et Démosthène, honoré parce qu'il avait été le grand pourfendeur des Macédoniens de son vivant, et qu'il avait été aussi l'adepte, le partisan acharné de l'alliance avec ses Thébains et plus généralement avec les gens de Béotie, qui étaient fort à l'honneur précisément en cet été 281 en tant que bienfaiteur du peuple d'Athènes dans son effort de libération. L'inscription de Thèbes en témoigne. Mais cela ne signifie pas encore, me semble-t-il, que les Macédoniens, à cette date, aient déjà abandonné la place forte de Mounichi à l'entrée du port. On a vu en effet qu'en 281 encore, les Athéniens s'employaient, urbi et orbi, à obtenir la récupération d'Éleusis. Or, il est a priori improbable que cette forteresse ait pu être évacuée beaucoup avant celle du Pirée. D'autre part, et surtout, une très curieuse affaire paraît bien attester qu'en 280 encore, quand le roi Antigone bataillait en Asie mineure, il y avait une garnison à Mounichi. En effet, depuis 1926, on connaît un papyrus provenant de la célèbre bibliothèque des Pisons à Herculanum, plus particulièrement d'une œuvre du philosophe Philodème, qui conserve les bribes d'une lettre d'Épicure à son disciple Hérodotos. Or, il en ressort qu'un personnage non nommé, important en tout cas, fut emprisonné à Corinthe, par le demi-frère d'Antigone, Cratéros, puis transféré au Pirée, où sa libération contre rançon, pas moins de 20 ou de 10 talents, faisait l'objet de tractations auprès du commandant de la place, Antipatros. D'emblée, l'éditeur italien du papyrus comprit que le personnage en question, qui était nommé avant dans une partie perdue du papyrus, que ce personnage ne pouvait être que Mithrès le Syrien, connu par ailleurs dans la tradition épicurienne, précisément comme un haut fonctionnaire à la cour du roi Lysimaque, et en même temps un disciple très fervent d'Épicure. Diogène Laërce, en particulier, dans deux ou trois passages, rappelle que certains auteurs faisaient reproche au grand philosophe athénien Épicure, qui s'attira beaucoup de critiques de son vivant, et y compris chez ses élèves, d'avoir accordé à Mithrès, trésorier de Lysimaque, ce n'était pas donc le premier venu, des éloges surfaits et des titres excessifs. Plutarque, adversaire résolu en son temps des épicuriens, ironise, lui, sur le fait que Métrodore, un des principaux disciples du maître, fut vivement félicité par Épicure pour avoir parcouru les 40 stades, donc environ 8 kilomètres, séparant Athènes du Pirée, bien qu'il n'eût obtenu, en fin de compte, aucun résultat tangible en faveur de ce Mithrès. L'épisode paraît nécessairement postérieur à la mort de Lysimaque, à Couroupédion en 281, février même, puisque c'est alors seulement que son ministre dut prendre le chemin de l'exil et fut appréhendé dès son arrivée en Grèce par les agents d'Antigone Gonatas. Sa mise en sûreté au Pirée ne peut donc guère être survenue avant le printemps 280. Et les tentatives faites par Épicure et ses disciples pour le tirer d'affaire, puisque c'était un épicurien de l'école, toutes ces tentatives ne doivent dater que de 280. Dès lors, les modernes, et Habichte notamment, ont vu dans cette affaire, dont le déroulement ne nous est que très partiellement connu, un indice très fort, une quasi-preuve, que le Pirée resta aux mains des Macédoniens après 281. Étant d'un avis opposé, Gautier a montré un certain embarras face à ce texte et s'est demandé si l'on ne pourrait pas admettre une date plus haute pour la fuite de Mithrès, qui aurait pu, tel le fameux Harpale, à l'époque d'Alexandre, ne pas attendre la mort de son maître pour lui fausser compagnie, en partant, en quelque sorte, avec la caisse. Dans ces conditions, son emprisonnement au Pirée serait encore antérieur à l'été 280. Mais, en fin de compte, il faut bien reconnaître que cette solution, cette hypothèse, n'est pas la plus probable, compte tenu des circonstances. Aussi, me paraît-il clair que s'impose justement ici la distinction entre Pirée et Munichi, même si le nom spécifique de la forteresse n'apparaît pas dans la lettre du papyrus. Métrodore, le disciple, qui devait décéder quelques années plus tard, donc c'est un terminus pour la chronologie aussi, s'est rendu au Pirée sans problème, car vers 280, il n'y avait plus de frontières à passer, plus de murs, si vous voulez, plus de postes de contrôle. Les Macédoniens, toutefois, tenaient encore la forteresse, mais certainement plus pour très longtemps, car une action d'Olympiodore, celle que nous rapporte Pausanias dans le passage des allégués la semaine dernière, vu tout à l'heure, dut bientôt les en déloger. On notera au surplus que le texte papyrologique lui-même fait précisément mention d'Olympiodore, puisque c'est un appariteur du collège des stratèges, hein, un upéretes, tiston strategon, qui est la plus haute autorité politique et militaire, cet appariteur qui dit avoir apporté la missive de la part d'Olympiodoros, hein, feron tagramata par Olympiodorou. C'est donc en fin de compte une confirmation bienvenue du rôle que ce grand Athénien, ce notable, qui fut sans doute stratège des hoplites plusieurs années de suite et jusqu'à 279, joua dans la récupération finale du Pirée, ville d'abord, les choses sont distinguées, puis la forteresse en l'espace de, disons, 2 ans au maximum. On verra pourquoi tout à l'heure. Il me paraît en effet opportun de présenter au préalable quelques réflexions sur un témoignage particulièrement attachant, me semble-t-il, de ce que pouvait signifier pour la population cosmopolite du Pirée une telle séparation du port d'avec la ville même d'Athènes. Il s'agit d'un décret émanant de l'association des orgéons ou adeptes de Bendis, installés au Pirée. Document bien conservé, sinon complet, que nous avions commencé à examiner ensemble la semaine dernière en séminaire. On a rappelé que cette divinité d'origine thrace, contestablement, était acclimatée en Attique depuis l'époque de Périclès au moins, et qu'elle recevait l'hommage de beaucoup d'Athéniens, pas seulement donc d'étrangers résidents de Métèque, lors d'une procession nocturne, panoukis, qui a ses lettres de noblesse dans la littérature grecque, puisque c'est par l'évocation de cette parade aussi brillante que bruyante que s'ouvre, on le sait, l'une des œuvres les plus célèbres de Platon, rien moins que la République, rédigée vers 360 avant Jésus-Christ. Vers la même époque déjà, ce thiase avait été apparemment le premier, et peut-être quelque temps le seul, comme ne le manque pas de nous le rappeler justement le décret ici dans ses considérants, à obtenir de la cité d'Athènes le droit d'acquérir terre et maison, d'y installer un sanctuaire, très certainement au Pirée. Surtout les orgéons de Bendis. Divinité étrangère, encore une fois, mais intégrée de longue date au panthéon civique jouissait d'un privilège exceptionnel, celui de pouvoir faire partir leur procession annuelle depuis le foyer Estia du Prytanée. C'est un haut lieu de l'espace civique athénien au pied de l'Acropole. C'est Prytanée qui n'est toujours pas encore clairement localisé. On devait donc, depuis ce, à ce foyer Estia, allumer une torche, allumer un feu qui, que l'on transportait jusqu'au sanctuaire de Bendis au Pirée. Il y avait ainsi un lien très fort ce jour-là entre la ville et son port. Si les Orgéons du Pirée décident de prendre des dispositions particulières, entrant en détail, au sujet de cette procession, c'est qu'ils doivent tenir compte d'un fait nouveau, à savoir la construction, ou plutôt la décision d'abord, prise par les adeptes de Bendis installés en ville, entoi astei, de construire un hieron de cette déesse à Athènes même. Étant soucieux, comme disent les considérants assez développés, d'une part d'obéir à la loi de la cité, la loi de la cité, qui fait obligation aux thraces, donc aux adeptes de Bendis, quelle que soit sans doute leur origine ethnique véritable, c'est un peu une étiquette, de conduire leur possession jusqu'au Pirée. Pempein, ten pompen, eis peiraia. Désireux d'autre part de vivre en bonne intelligence, oikeios diaikestai, avec ceux de la ville, puisque ces derniers ont manifesté, eux aussi, de bonnes dispositions. Ce sont les lignes 7, 8, 9. Ceux du Pirée, donc, votent au terme d'une assemblée, au terme d'une procédure régulière, en assemblée principale, Ecclesia Kyria, un décret au terme duquel résolution est prise de faire en sorte, c'est un peu une phrase assez alambiquée, de faire en sorte que la procession, à chaque fois que ceux de la ville décideront de la mettre sur pied, tem pompen, os an elontai oi entoi astei, je prends ici le verbe airestai dans son sens moyen, et non point passif, comme dans la traduction que vous avez sous les yeux de Madame Le Guen, katistanai tem pompen, que cette procession-ci, tende, également, dit le décret, dans une phrase encore une fois un peu emberlificotée, se déplace vers depuis le Prytanée jusqu'au Pirée en faisant cortège commun avec ceux du Pirée. Donc la procession de la ville doit faire marche commune avec celle des gens du Pirée. Ento autoi tois ectu peiraios. En effet, à mon avis, il ne faut pas vouloir introduire dans ce passage, même si la formulation, encore une fois, est assez maladroite, à force d'insistance, un animal ou un objet qui se dissimulerait derrière ces lettres, ici, ce morceau de phrase, tende un, c'est le texte tel que l'a établi le premier éditeur, Adolf Wilhelm, soit une truie, on a voulu lire tende une, selon une ancienne conjecture de l'excellent Paul Foucard il y a un siècle, soit alors en chêne, ten drune, comme l'a suggéré astucieusement, mais sans réel fondement, le père Sokolovski dans ses lois sacrées des cités grecques, où le commentaire, il faut bien le dire, est le plus souvent superficiel. Car les Orgéons du Pirée ne se soucient pas, n'ont pas à se soucier, en fait, de ce que vont bien pouvoir trimballer leurs coreligionnaires de la ville. Peu leur importe que la Pompée soit précédée ou non par là où les victimes à sacrifier, veaux, vaches, cochons, ou qu'elle s'avance avec le chêne sacré, comme l'interprète la traductrice. Seul compte, à leurs yeux, l'itinéraire, de la ville au Pirée. Son point de départ, encore une fois, et surtout son point d'arrivée, afin qu'elle aboutisse bel et bien là où elle doit arriver, ainsi que le prescrit une ancienne loi de l'État. Et pour encourager ces citadins à ne pas, les gens d'Athènes-Ville, à ne pas regimber devant la longue marche qui les attend, pour les inciter surtout à faire corps avec eux, les Orgéons du Pirée décident de mettre sur pied un véritable comité d'accueil. Les épimélètes de l'association devront, c'est la suite du décret, attendre les processionnaires au Nymphaion du Pirée, c'est-à-dire à l'emplacement d'une grande fontaine, d'une fontaine publique, avec des éponges, des bassines, hein, les canailles, spongoi, de l'eau, évidemment, udor, et leur faire partager ensuite le casse-croûte, si l'on peut dire, à ristone, qu'ils se préparent pour eux-mêmes. Kathaper, kai eautois, paraskeiasoutin. Et dans le sanctuaire même, au pied de la colline de Mounichi. Ainsi, les sacrifices se feront dans l'harmonie, le prêtre et la prêtresse pouvant adresser à la divinité des vœux pour les orgéons de la ville, dans les mêmes termes exactement, katatauta, que pour les orgéons locaux. Ce document, assez unique, il faut bien le dire, dans le vaste corpus des décrets d'association en Attique, atteste ainsi une forme de réunification. L'expression ento autoi dans le même ensemble s'y retrouve d'ailleurs en bonne place, vous l'avez vu, et c'est visiblement cela qui a dû amener mon collègue Philippe Gauthier à consacrer deux pages suggestives à ce document dans son mémoire de 1979. Avec perspicacité, notre ami propose de reconnaître dans la situation insolite des orgéons de Bendis, scindés en deux branches, une conséquence de la séparation d'Athènes et du Pirée une demi-douzaine d'années durant, de 287 à 281. Conséquence seulement indirecte, il faut bien le reconnaître, et même assez lointaine, puisque la date du décret semblait alors assez solidement fixée vers 260. Les spécialistes ayant pensé pouvoir mettre l'archonte Polystratos, qui date, epi Polystratus archontos, soit en 262, soit 261, mais sans se soucier beaucoup du contenu si particulier de l'inscription, qui est la seule à faire connaître cette archonte. Aussi voit-on tous les auteurs, y compris les plus récents, divers travaux portant sur les associations attiques, adopter cette date de 261, ou alors celle de 269, plus récemment défendue, ou encore passer de l'une à l'autre à quelques pages d'intervalle. Or, il est pratiquement assuré aujourd'hui que ces deux dates sont l'une et l'autre erronées, qu'elles doivent être rejetées sans rémission, car dans la liste des archontes, il n'y a pas, et qui pourrait être continué, que j'emprunte ici à l'ouvrage de M. Oliver, de 2007, et qu'on pourrait prolonger vers le bas, il n'y a aucune mention de ce Polystratos, une petite place très incertaine, peut-être vers 269-8, mais aucune une date qui serait d'ailleurs un peu paradoxale, il faut bien le dire, puisque en 269, Athènes et le Pirée étaient probablement à nouveau séparés, et Athènes coupée à nouveau de son port, ce qui ne serait pas le meilleur moment pour le décret que nous venons de commenter. En réalité, Polystratos est un archonte errant, totalement errant, un SDF, si j'ose dire, de la chronologie attique, hein, et qui est ballotable sur un espace de près de 50 ans depuis que le spécialiste de la gravure attique, Stephen Tracy, a montré que le décret du Pirée était l'œuvre d'un lapicide très prolifique, ayant travaillé de 286 à 239. Et la tendance actuelle, chez les spécialistes, chez Michael Osborne en particulier, l'homme qui tient à jour au regard de l'univers la liste des archontes attiques au IIIe siècle, c'est de vouloir caser Polystratos avec un compagnon d'infortune dénommé Lycéas le plus tard possible. Vous voyez qu'il aboutit à 240-239. Dès lors, il serait bien difficile d'admettre le moindre lien de cause à effet entre la réunification de 281 et les efforts déployés par l'association des traces adorateurs de Bendis pour éviter une scission définitive entre la branche installée dès l'origine au Pirée et la branche surgit beaucoup plus tard en ville d'Athènes. Tout au plus pourrait-on supposer que les Orgéons, plus de 20 ans après la fin de la guerre de Crémonides, tentaient de remédier aux conséquences de la barrière politique et militaire qui dut vraisemblablement, une fois de plus, séparer la ville de son port entre 268 et 262. Mais il ne faut pas exclure trop vite, je crois, même si je n'ai pas de solution définitive à apporter, puisque aussi bien le style de la gravure permettrait au jugement du meilleur connaisseur en la matière que Polystratos vienne, en fin de compte, occuper une place beaucoup plus haute aux alentours de 280 environ. Attendu que la chronologie de ces archontes, notamment pour l'année 280-79 et encore pour une autre année, n'est pas totalement établie, d'autant plus que vous vous en souvenez, on a éliminé, on a pu éliminer le pseudo-archonte Gorgias, qui était attesté seulement dans le pseudo-Plutarque, ne faisant plus qu'un seul archonte avec Urias, l'année 281-0. Donc il y a une espèce d'appel d'air dans cette partie de la chronologie, mais la chronologie des archontes attiques, comme la nature elle-même, a horreur du vide, naturellement, et les érudits qui ont exorcisé le fantôme de Gorgias, qui l'ont éliminé, et ici, il n'est plus là, après Urias, ils se sont empressés de mettre un autre archonte, Télocles, qui paraissait pourtant, lui, bien installé aux alentours de 290, et on le met là, maintenant, on propose de le mettre là, ce qui ne va pas sans mal, d'autant plus que cet archonte Télocles apparaît dans une lettre d'Épicure à ce fameux Mithrès, le Syrien trésorier de Lysimaque, une lettre qui paraît datée bien antérieurement à 281. On voit donc mal comment on pourrait réconcilier tout ça pour le moment. Rien n'est encore réglé, de sorte que notre Polystratos, éponyme encore une fois du décret des traces de Bendis, pourrait peut-être d'aventure, il faudrait l'examiner, trouver une petite place ici, justement, à la place de ce Télocles. Et dès ce moment-là, il serait le successeur immédiat d'Urias et de la réunification. Ce serait un effet immédiat de la réunification. C'est maintenant, et pour finir, sur un autre événement de grande portée qu'il nous faut nous arrêter un instant, en ne le considérant guère cependant que du point de vue athénien, même si les Athéniens n'en ont pas été, peut-être, même sûrement, les acteurs principaux, contrairement à ce qu'une partie de la tradition historiographique ancienne a tenté de faire accroire. Je veux parler, bien sûr, de l'invasion des Galates, des Gaulois, si l'on préfère, en Grèce centrale, en l'an 279. La date est bien établie parce que un de nos textes le situe sous un archonte athénien, Anaxicrates, qui est lui-même correctement daté de cette année. C'est donc un grand sujet historique pour lequel je renvoie d'emblée à l'ouvrage fondamental de Georges Nachtergal, les Galates en Grèce et les Sotérias de Delphes. Ouvrage paru, il y a déjà maintenant 30 ans, mais qui reste très solide, paru à Bruxelles en 1978 et qui a traité à fond des causes et des vicissitudes de cette invasion, comme aussi de l'exploitation politique qui a été faite de l'éclatante victoire finale sur les hordes celtiques. Ce qui m'intéresse ici, c'est de préciser le rôle joué en cette affaire par les Athéniens. Rôle qui, certes, ne fut pas nul, mais a été à coup sûr bien moindre, militairement parlant en tout cas, que celui d'autres coalisés grecs, en particulier les Étoliens, donc ce peuple de la Grèce de l'Ouest, ce peuple qui est en pleine expansion alors, et à qui revient le mérite d'avoir non seulement empêché les Galates de piller le sanctuaire de Delphes, quand ceux-ci eurent réussi à contourner le passage des Thermopyles, à l'entrée dans la Grèce centrale, et à marcher justement en direction de Delphes. Et ces Étoliens réussirent aussi à vaincre un fort détachement de l'armée gauloise qui avait pénétré dans leur propre pays, l'Étolie, en détruisant de fond en comble la petite ville de Calyone. En effet, dans le double récit qu'il a donné des événements, Pausanias, le périégète, laisse entendre que les Athéniens non seulement se virent confier le commandement des opérations, mais qu'ils firent intervenir au large des Thermopyles une flotte constituée de trières. Cette version pro-athénienne se trouve en quelque sorte à l'état pur dans un passage du premier livre de la Périégèse que vous avez sous les yeux, où l'auteur évoque l'invasion galate de façon assez rapide pour commenter une œuvre picturale qui se trouvait sur l'Agora d'Athènes, qu'on n'a plus, et que lui-même peut-être n'a pas vu, mais qu'il connaît par ses sources, une peinture représentant Callippos l'Athénien placé à la tête du contingent envoyé par la cité combattre contre les Galates. Donc il part d'un monument, comme souvent, et il évoque l'événement et ses origines, les Galates. Il est prouvé aujourd'hui que ce récit résulte d'un télescopage, plus ou moins délibéré, de deux événements que tout assurément invitaient à rapprocher la défense héroïque, bien connue des Thermopyles, en 480 contre l'invasion des Perses, conduite par Xerxès, et les combats menés au même endroit, ça c'est sûr, mais en 279, contre ces nouveaux et redoutables barbares qu'étaient les Gaulois. D'où le rôle prépondérant attribué aux Athéniens, par contamination, et la prétendue intervention de leur flotte en cette circonstance aussi. Puisque en 480, la flotte athénienne avait pesé de tout son poids dans la bataille navale livrée de face aux Thermopyles, la fameuse bataille de l'Artémision 2B. En réalité, il n'y a pas le moindre indice en faveur d'un combat naval en 279, les Gaulois eux-mêmes étant dépourvus de toute flotte. Au surplus, comme Nachtergal n'a pas manqué de le relever, après d'autres, dans le décret que les Athéniens votèrent bien plus tard, une cinquantaine d'années après, dans les années 240, disons 30 ans plus tard, pour accepter l'institution par les Étoliens des Soteria de Delphes, d'une nouvelle forme de fête appelée Soteria à Delphes, grande fête commémorative de la victoire sur les Galates, dans ce décret d'Athènes, il n'est fait mention que des forces terrestres envoyé par la cité. On voit donc qu'il serait tout à fait imprudent de vouloir tirer de cet épisode militaire que les Athéniens, en 279, étaient à nouveau maîtres de leur port, puisqu'ils auraient réussi dès alors à reconstituer leur flotte. Et cela, même si, par ailleurs, la réunification du moins c'est mon opinion, de la ville avec le Pirée était effectivement réalisé. On se contentera donc de dire que si Athènes put alors songer à mener une expédition hors des frontières de l'Attique, c'est qu'elle devait tout de même avoir la pleine possession de son territoire. Donc, vous voyez, un argument un peu plus réduit. Car cette participation des Athéniens à la défense de la Grèce centrale, cette participation elle-même, n'est pas douteuse. Elle ressort également du second récit, beaucoup plus développé, que le même Pausanias, bien des années après la rédaction des Attica, a inséré dans sa description des monuments de Delphes, au livre 10 de son œuvre. Ce texte est tout à fait remarquable, puisqu'à l'évidence, il repose sur la contamination, l'assemblage de deux sources absolument distinctes, incompatibles même, que les analyses de Nachtergal, puis celles de Habicht, dans son essai de 1985 sur Pausanias, sur l'œuvre de Pausanias, permettent désormais de dissocier très clairement. D'un côté, en effet, il y a les éléments fondamentalement anachroniques, peut-on dire, empruntés au récit d'Hérodote des événements de 480. Pausanias avait une grande admiration, et il n'avait pas tort, pour Hérodote, jusqu'à l'imiter dans son style. Donc, en particulier, tout ce qui touche à l'action navale des Athéniens en 279, comme dans l'extrait du livre 1, tout cela est totalement anachronique. De l'autre, ce sont alors des données tout à fait précises, puisées chez un contemporain de l'invasion galate, historien qui doit me faire qu'un de la vie générale aujourd'hui, avec Hiéronyme de Cardia, un officier, un proche des Antigonides, auteur d'une sobre histoire des Diadoques jusqu'à l'année 272. On en possède pas mal de fragments. C'est à lui que le périégète doit en particulier de connaître les effectifs. Vous avez ce tableau emprunté à Nachtergal dans votre dossier. Tous ces effectifs alignés contre les Galates aux Thermopyles du côté grec. Relevons deux choses simplement à ce propos. D'abord, le fait très intéressant à la fin, que les rois Antigone Gonatas et Antiochos Ier avaient l'un et l'autre envoyé un contingent de 500 mercenaires, des Xenica, comme dit Pausanias, ce qui tend à montrer, avec d'autres indices, qu'ils avaient alors fort opportunément conclu une paix, mis fin à leur guerre fratricide qu'ils opposaient, on l'a vu, en Asie mineure depuis la fin de 281. Et cela peut-être justement à l'annonce de l'arrivée des hordes gauloises en Macédoine dès l'hiver 280-79, ces Galates qu'eux-mêmes allaient devoir affronter l'un et l'autre un peu plus tard dans leur zone d'influence respectives. Le fait que les Athéniens aient pu, en 279, faire cause commune avec des troupes macédoniennes, au sens large du terme, pourrait même être l'indice qu'il n'y avait plus alors de contentieux en Attique entre le roi Gonatas et les anciens sujets des Antigonides. Une autre donnée fournie par Hiéronyme de Cardia, via Pausanias, même si Pausanias ne cite pas expressément, ne mentionne pas expressément sa source, mérite d'être rapidement commenté ici. C'est bien sûr l'effectif du contingent athénien. 1000 hoplites et 500 cavaliers. Le chiffre de 1000 fantassins n'est pas énorme comparé aux troupes d'infanterie mises sur pied par les deux grands états fédéraux de l'époque, les Étoliens, vous voyez, des chiffres importants, et surtout les Béotiens, dont on a le contingent, 10 000. Il ressort cependant du décret attique déjà mentionné sur les Sautériens que ces fantassins étaient des épilectoi, c'est-à-dire des soldats d'élite. La qualité paraît donc avoir en quelque sorte primé sur la quantité. En revanche, l'effort des Athéniens dans le domaine de la cavalerie a été manifestement considérable et d'autant plus apprécié, sans doute, que plusieurs cités importantes comme Mégare, Oponte, ne purent dépêcher que des fantassins. Athènes, elle, envoie autant de cavaliers que toute la Béotie réunie, pays d'élevage de chevaux pourtant, et réputé pour sa cavalerie. Ce chiffre de 500 correspond en fait à la totalité ou à la quasi-totalité de ce que la cité à cette date pouvait recruter comme cavaliers. Deux décrets exactement. Retrouvés, chose curieuse, à 30 ans d'intervalle au même endroit, qui était l'île Parkeion, près de ce portique, portique des Hermès, nous apporte des éléments sur la cavalerie. L'un, trouvé déjà dans les années de 260, nous fait connaître une réforme opérée par de diligents hipparques en l'année 282-1. On voit là que, dans ce décret, par ce décret qui émane des cavaliers eux-mêmes, que les hipparques, les commandants de cavalerie, sont félicités pour avoir ajouté, en quelque sorte, 100 hommes, 100 cavaliers à l'effectif qui était celui de la cavalerie à cette époque, c'est-à-dire seulement 200, un chiffre très bas, qui s'explique probablement par les années d'occupation macédonienne, de sorte qu'on avait, donc, à partir de 282-1, un contingent de 300 cavaliers. Mais alors, comment est-on parvenu, dans ces conditions, à atteindre le chiffre de 500 indiqué par Pausanias? S'agirait-il alors d'un chiffre arbitraire, gonflé indûment? Non, car le second décret, trouvé beaucoup plus récemment, en 1996, au même endroit, avec la même date exactement, 282-1, nous fait connaître l'existence, dès cette époque, alors qu'on croyait que c'était une création du IIe siècle seulement, d'un corps de cavaliers plus légèrement armés, qu'on appelait les Tarantinoi, les Tarentins, Tarente, corps de troupes dont on ne nous dit pas, on ne dit pas l'effectif précisément, mais qui constituait certainement un appoint important. C'est donc avec ces cavaliers-là aussi, très certainement, qui paraissent avoir été en majorité des mercenaires étrangers, en tout cas l'auteur du décret lui-même est un Achéen, comme on le voit, que les Athéniens sont allés attendre bravement l'arrivée des hordes gauloises sous le commandement de leurs deux hipparques et de leurs 12 philarques, sans parler des Tarantinarques pour le contingent des mercenaires. Cette sortie massive de la cavalerie en 279 semble être un nouvel indice que la situation militaire en Attique était redevenue normale, sans ennemi intérieur. On relèvera dans un dernier point qui témoigne lui aussi de la qualité et de l'ancienneté de la source utilisée par Pausanias dans son récit plus développé du livre 10. Donc, après que ce sont faits, des éléments de contamination qui s'y trouvent également à partir d'Hérodote. Le Périégète nous fait connaître les noms des principaux chefs militaires. Certes, il a manifestement tort de prétendre que Callippos, le commandant du contingent athénien, fut le généralissime de l'armée des coalisés. On lui aurait donné ce privilège en raison de l'énorme prestige d'Athènes. C'est là, très certainement, un anachronisme, un de plus. Mais il ne fait pas de doute que ce Callippos, fils de Moïroclès, était appartenant à une importante famille d'Éleusis, connue par les inscriptions, et c'est un personnage qui, assurément, joue un rôle politique, on le voit, dans les années suivantes, notamment à l'époque de la guerre de Crémonides. Il est envoyé comme ambassadeur, il est représentant d'Athènes dans la ligue qui se crée à ce moment-là. Et son fils Archandros, on le voit aujourd'hui, eut une brillante carrière de stratège dans les années 240. Les autres chefs de la coalition étaient certainement eux aussi des personnalités tout à fait importantes, chacune dans leur le cité ou confédération. Abicht a relevé certains cas parmi les Étoliens, et notamment un des personnages, Eurydamos, qui n'est pas dans la liste des trois commandants chez Pausanias, mais qui, par un autre passage, paraît avoir été lui le chef supérieur, le commandant général des coalisés, donc un Étolien. J'ai moi-même, voici une dizaine d'années, fait une suggestion qui a été bien accueillie pour le dernier des quatre béotarques, des chefs du contingent béotien, qui s'appelle, vous le voyez, Lysandros. Il me paraît en effet identifiable aujourd'hui au personnage du même nom, voilà, ce Lysandros parmi les béotarques, comme l'auteur d'un décret qui, à Oropos, faisant à ce moment-là partie de la Confédération béotienne, propose un assez célèbre décret afin de reconstruire la muraille de la cité. Et cela, dans l'intérêt de la cité, dit le décret, et aussi dans l'intérêt du koinon béotien. Il est vrai que ce décret avait été daté très régulièrement pendant un siècle des alentours de 220, et qu'en réalité, l'écriture le proclame assez, et d'autres raisons encore, il date des alentours de 280 précisément. Donc ce Lysandros, dans sa cité, partisan actif de l'union avec la Confédération béotienne, était devenu, peu d'années après, un des béotarques, un des sept ou huit béotarques. Il y en a quatre là qui sont délégués sur le front contre les Galates. J'achève. La victoire sur les Galates fut saluée donc comme un énorme succès, avec un énorme soulagement aussi par des cités même éloignées du théâtre des opérations. Tous les membres de l'Amphictyonie de Delphes s'accordèrent, y compris les Athéniens qui en étaient membres, pour créer une fête des Soteria, une fête du salut, pour remercier l'Apollon de Delphes intervenu de manière décisive contre les Galates. À première vue, les Athéniens paraissent avoir fait preuve de pas mal de retenue dans ce domaine, chez eux, et Nachtergal s'est demandé si cette modestie ne serait pas éventuellement à mettre en relation avec la faible participation athénienne au combat. Mais ce n'en est probablement pas la bonne explication, car les Athéniens n'avaient pas à rougir du tout de ce qu'ils avaient pu réaliser en 279. En fait, il semble bien qu'ils cherchèrent non pas à créer une fête nouvelle, mais à donner plus d'éclat à leur fête des Dionysies, grande fête qui se célébrait au théâtre d'Athènes. Et on avait remarqué depuis longtemps que c'était en 279 qu'on avait dressé une liste très importante des palmarès de victoire au concours dramatique, tragique et comique, lors des Dionysies. Et plus récemment, le décret pour Callias, dans ses dernières lignes, nous montre que les honneurs décernés à ce personnage auront à être proclamés aux Grandes Dionysies dans un concours qualifié de nouveau, concours de tragédie qualifié de nouveau, Tragodon en agonito kaino, qui constitue apparemment un ajout et en même temps le clou de la manifestation et le moment des honneurs. Enfin, tout récemment, je finis là-dessus, une jeune épigraphiste italienne travaillant à Berlin, Madame Daniela Suma, a proposé, sur la base de ce fragment connu depuis 1938, à identifier en quelque sorte cet ajout, ce nouveau concours, cette nouvelle partie de concours, qui serait l'introduction de manière officielle dans les épreuves dramatiques, dans les épreuves scéniques, de comédies et de tragédies anciennes, classiques en quelque sorte, et où les meilleurs acteurs du moment pouvaient briller. Voilà donc comment les Athéniens auraient tenu, au lendemain de la victoire de 279-78, à marquer la prééminence de leur cité sur le plan culturel, une hypothèse qui, sans être assurée encore, paraît intéressante. Je m'arrête ici.